Let me talk!
Bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Let Me Talk pour clôturer la trêve internationale avec trois de nouveaux chroniqueurs qui vont se faire un plaisir de se présenter. On va commencer par Jules. Comment ça va, Jules ?
Ça va et toi ? Bah, très content d'être de retour dans une émission avec toi et voilà, on va faire ça bien.
Et on peut avoir une présentation un peu plus approfondie, c'est qui est Jules ? Qui Jules supporte-t-il ?
Jules, il supporte le Standard de Liège et plus particulièrement le très générationnel Lucas Noubi. CM pour Joueur Belge sur Twitter.
Ça va, on est tous avec toi dans ces moments difficiles, évidemment, c'est pas facile, on imagine. Maintenant, on va présenter le deuxième chroniqueur du jour, un chroniqueur que vous connaissez aussi peut-être. Clément, comment ça va, Clément ?
Ça va super, et toi, Patrick ?
Ça va super aussi. Déjà, merci. Vous êtes beaucoup plus sympa que ceux de la semaine passée. Il n'y a absolument personne qui m'a retourné la question.
Pour faire une petite présentation avant de démarrer l'émission, Clément, CM de Joueur Belge, collègue de Jules, malheureusement. Je supporte Chelsea. Et voilà, je pense que c'est déjà assez comme ça en termes d'informations, n'est-ce pas ?
C'est assez, il n'ose pas vous le dire, hein, parce que Jules vous a dit, lui, il est fan de Lucas Noubi, mais je comprends que Clément est fan de Conor Gallagher et c'est des choses qu'on n'ose pas forcément annoncer publiquement.
Ouais, c'est un concurrent sérieux au Ballon d'Or pour battre Bellingham, voilà, je le dis.
Ouais, ça doit être ça. Et maintenant, on va passer donc au dernier chroniqueur du jour, Kako. Comment ça va, Kako ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien, merci.
Alors, moi, je me présente, je suis supporter de l'Inter. Et fan incontesté de Barella. Et sinon, j'étais dans la première version que vous n'avez pas connue de Let Me Talk.
Personne l'a connu. Et donc, waouh, il y a des fans de Barella en Belgique. Waouh, c'est une folie. pourquoi pas. Et bon, pour commencer un petit peu, j'avais une petite question. On est en trêve internationale. C'est quelque chose qui fait débat. Vous, est-ce que vous êtes plutôt team trêve internationale ou pas ? Est-ce que c'est un moment que vous appréciez ou non ? Vous êtes plus, moi je veux voir mon club jouer, c'est équipe nationale, compétition, ok, mais le reste, je m'en fous un peu. Jules, vas-y.
Moi j'adore les trêves internationales perso, juste parce que ça me rapproche de ma famille, tout ça, parce qu'en général, le foot de club, je regarde tout seul, mais le foot international, je peux regarder avec ma famille, tout ça, donc c'est des moments que j'aime bien, mais après, il n'en faut pas non plus tous les mois, mais j'aime bien.
Ouais, c'est vrai, parlons de les trêves là du début de saison où il y en avait une trêve tous les mois, septembre, octobre, novembre. Et toi, Kako, team trêve internationale ou team Serie A ?
Non, moi je suis pas trêve internationale, j'aime pas. Je trouve déjà il y en a beaucoup trop et heureusement qu'ils ont mis la Ligue des Nations parce que les matchs amicaux, on n'en peut plus.
Ouais, je comprends, je préfère regarder l'Udinese qu'en Belgique-Angleterre. Et toi, Clément ?
Moi, je suis comme Jules, hein, team trêve internationale à mort, surtout que moi, je supporte un club qui n'est pas belge, donc ça me permet aussi d'avoir une petite connexion avec mon pays, n'est-ce pas ? Donc oui, moi, team trêve internationale à 1000%, la Belgique coule dans mes veines, et c'est toujours un plaisir, en plus avec les live tweets sur Joueurs Belges, je me régale à chaque fois.
Ouais, je vois ça. Et sinon, quoi, trêve internationale, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez juste regardé la Belgique ? Vous avez regardé d'autres pays ? Vous avez fait une petite pause foot, juste Belgique ?
Juste Belgique, je me suis pas embêté pour rester poli à regarder les autres pays. J'aurais peut-être bien regardé les matchs de la France, mais ils jouaient en même temps que nous. Donc,
c'est vrai, c'était pas possible. À part
France, la Belgique, il n'y avait pas France-Allemagne, mais bon, j'avais la flemme.
Et il y a quelqu'un d'autre qui a regardé est-ce qu'il y a quelqu'un entre Kako et Kako ?
Ouais, moi j'ai regardé Brésil-Angleterre et aussi la deuxième mi-temps de France-Allemagne. Voilà, c'était plutôt pas mal.
Ouais. C'est sûr qu'à
les débuts d'Hendrick.
Après le Irlande-Belgique, ça changeait un petit peu.
Ouais, ça m'a réconcilié avec le football.
Mais bon, on va bientôt parler. Toi, Jules ? Non, j'imagine toi, t'as pas eu le temps.
Moi, j'ai regardé que la Belgique, mais j'ai regardé toute la Belgique, c'est-à-dire les U17 et les U21 et les A.
Ben, très, très bonne transition. Donc, je vais vous présenter les thèmes de l'émission du jour. Donc, on va commencer évidemment par faire un retour sur le Irlande-Belgique de samedi. On va essayer de faire ça court. Hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, on passera sur l'Angleterre-Belgique donc de hier soir. Par après, on va revenir sur les gagnants et les perdants de cette trêve internationale. Avant un bref retour, comme Jules en a parlé, sur les U21, U19 et U17. Et enfin, on terminera par les questions-réponses des auditeurs. Donc, alors le fameux Irlande-Belgique, donc voilà le score final 0-0 avec un penalty arrêté par Matt Sells aux alentours de la demi-heure de jeu. Au niveau de la compo, donc on va passer juste sur la compo de la Belgique, je vous épargne la compo irlandaise. Donc on avait donc Matt Sells au goal, en défense une défense à 4 et donc de droite à gauche Castagne, De Winter, Woodfaz et De Man, un milieu de terrain à 3, Vermeeren, Astor Vranks, Yuri Tielemans et une attaque aussi à 3 évidemment, Bakayoko, Openda, Leandro Trossard. Donc on observe deux réels titulaires, peut-être plus, mais on en parlera plus tard, dans le 11 de départ, avec Timothy Castagne et Woodfaz. Peut-être on peut considérer Trossard, quand De Bruyne n'est pas là, comme voilà, avec Carrasco, ça se bat. Deux joueurs aussi à court de rythme, très clairement, qu'on savait déjà avant, avec Astor Vranks et Arthur Vermeeren, qui jouent très peu ces dernières semaines. Voilà, c'était donc un match assez moyen, avec peu de rythme. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Donc, quand les compositions sont sorties, quelle a été votre première pensée ?
Bah, écoute, je me permets, moi, honnêtement, j'étais hype à la base, parce que je me suis dit, on avait déjà vu Demann une ou deux fois, et au Werder Bremen, il se débrouille plutôt pas mal, donc ça peut être sympa. On voit les débuts directement de Conny De Winter, bah, Vermeeren, on sait quel niveau il peut avoir, bah, Bakayoko aussi, donc moi, j'étais très hype. Et puis il y a eu la réalité du terrain, malheureusement, qui a bien plombé l'ambiance. Donc voilà, un peu déçu. Enfin, au moment de la compo, très content, mais déçu du match, forcément. Je pense que mes deux comparses pourront en dire plus. Mais ouais, c'était pas facile.
Et toi, Kako, t'étais hype aussi en voyant cette compo ou toi, t'étais plus dubitatif avec ces nombreux changements ?
Bah non, moi, franchement, la compo, elle me plaisait. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs qu'on a pu suivre dans les catégories jeunes. Et du coup, bah, c'était intéressant, surtout voir la première de Conny De Winter. Personnellement, c'est un joueur que je voulais voir en équipe nationale déjà depuis un moment. Bon, il a fait un match correct, sans plus. Mais pour moi, ça présage de bonnes choses pour l'avenir. Et c'était intéressant.
Et toi, Jules, en voyant le 11, comme tête de comparse ou... T'avais des a priori.
Non, comme eux, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit. J'étais assez hype. Content pour Conny, content pour Aster, pour Loïs aussi, parce que même si Lukaku n'était pas là, j'étais content qu'il ait une titularisation dans les deux matchs pour essayer de le faire marquer, parce que je trouve que c'est important que ton neuf remplaçant arrive en confiance à l'Euro. Et vu qu'il n'a pas vraiment marqué que les Diables à part à son premier match, je trouve que ça serait vraiment bien qu'il marque d'ici l'Euro. Donc j'étais vraiment content à ce niveau-là, mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu.
On espère que le Luxembourg va permettre de régler ce problème. Mais ouais, je pense aussi, en fait, voir beaucoup de changements, voir des joueurs qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Aussi, ça hype un peu. Et personnellement, j'étais comme vous, j'étais hype. Mais comme Clément l'a bien dit, malheureusement, il y a une réalité. On va en parler de cette réalité. Est-ce qu'à la fin du match, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être trop de tests, vous pensez ? Comme j'ai dit, avec seulement deux titulaires, est-ce que ce n'était pas un petit peu trop ? Parce qu'on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission 1, que c'est bien de faire des tests, mais faire des tests, en gros, si les défenseurs sont trop, j'en mets un sur deux, peut-être le milieu de terrain, je mets un remplaçant. Est-ce que c'était pas trop ? Jules, par exemple ?
Ouais. Bah, personnellement, je pense qu'on peut dire que c'est trop, parce que oui, c'est jamais un cadeau de faire jouer des remplaçants entre eux. Mais après, il y a une réalité, c'est que nos joueurs, ils ont encore beaucoup de matchs à jouer d'ici l'Euro, et que ça veut dire qu'il aurait fallu faire, si tu veux faire jouer ton équipe type contre l'Angleterre, il aurait fallu faire jouer un joueur deux matchs. Et par exemple, un Doku qui a encore la Ligue des Champions et la Première Ligue derrière, le faire jouer deux matchs, est-ce que c'est pas risqué qu'il arrive cramé à l'Euro ou même blessé? Donc il y a un juste milieu à aller chercher et je pense que Tedesco, c'est assez bien.
Je comprends, ouais, par exemple, le cas Doku, mais peut-être au milieu de terrain, est-ce qu'un Onana qui ne joue qu'en Première Ligue n'aurait pas pu jouer les deux matchs? Au moins, enfin, on voit que l'adversaire qu'on a affronté un peu plus tard, il y a des joueurs qui ont joué deux matchs. Toi, Clément, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je sais pas. Moi, pareil. Je trouve, comme Jules, je trouve qu'il a fait. Je trouve que Tedesco s'est bien débrouillé. Il y avait une bonne, mix entre des joueurs. Après, comment dire ? Il y en a qui jouent peu en club, mais qui avaient déjà joué en équipe nationale. Donc, au final, on s'était dit, bah, voilà, c'est pas mal. Ça se tente. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage que ce manque de rythme en club se soit autant fait ressentir, alors qu'à la base, la compo était quand même cohérente. Je pense que Amadou, comme la plupart des autres gros leaders, avait besoin de repos. Il lui a donné son repos qu'il méritait, surtout qu'il a eu quelques petits pépins physiques, Amadou, ces dernières semaines. Donc pour moi c'était logique, c'est juste dommage que ça ait mal fini quoi.
Toi, Kako, t'es sur la même ligne ou...
Oui, il y a eu beaucoup de turnover, mais on arrive bientôt à l'Euro, c'est dans 3 mois, et c'est peut-être l'une des dernières occasions de donner la chance à certains. Et du coup, enfin moi je suis pas contre le fait qu'il donne sa chance un peu à tout le monde et qu'il fasse tourner, surtout que au regard des 2 matchs, c'était peut-être l'adversaire le plus, on va dire, le plus faible, sans leur manquer de respect. Et du coup, c'était l'occasion pour donner du temps de jeu à ceux qui jouent peut-être un peu moins et bah, comme Conny, avoir leur première expérience avec l'équipe nationale. Du coup, moi, ça va, je suis pas mitigé par rapport à ça.
Ça va, on est sur la même ligne. Moi, perso, je trouve que c'était peut-être un peu beaucoup. Parce qu'en gros, par exemple, le milieu Aster Wrangs, Arthur Vermeeren, Yuri Tielemans, je trouve que c'est un milieu qui a très peu de chances d'un moment se retrouver sur un terrain, que les trois ensemble se retrouvent sur un terrain. Donc, je me dis que bah, tu testes Wrangs, pourquoi pas avec Tielemans, et pourquoi pas mettre un troisième qui a plus de possibilités de jouer que Vermeeren. Après, c'est pas ce qu'il a fait. C'était Dzeko qui a ses diplômes, c'est pas moi. J'imagine qu'il avait ses raisons. Peut-être aussi des choses qu'on ne sait pas. C'est vrai que, comme Clément l'a dit, il y a eu des petits soucis physiques pour Onana. Même Mangala aussi, qui n'avait pas joué depuis presque un mois avec Lyon. Donc aussi, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. En parlant d'Onana, il y a eu un changement assez étonnant. Donc, il est rentré comme défenseur central à la place de Conny, hein, si je me souviens bien, Conny de Winter. Voilà un changement qui a posé question. Deux explications sont sorties donc dans la presse pour expliquer ce choix. La première, donc, c'était une sorte de test. Un test, c'est-à-dire que Tedesco voulait simuler le fait que si pendant un match, voilà, il devait avoir un carton rouge ou une blessure d'un défenseur central et plus de changements à disposition et qu'on est obligé de faire redescendre un joueur comme Onana, donc tester ça. Et l'autre explication qui a été donnée par Christophe Franken, si je me souviens bien, ça a été qu'en fait, il souhaiterait prendre un défenseur en moins dans la liste de 23 pour prendre un offensif de plus. Bah, Clément, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces deux explications? Est-ce que les deux t'ont convaincu, l'une plus que l'autre?
Le fait qu'il teste Amadou en tant que défenseur central, si jamais on venait à prendre un carton rouge, je trouve ça un peu bizarre parce que je crois que c'est toi en plus qui l'avais tweeté, Patrick. S'il y a bien un joueur dans cette équipe qui est enclin à prendre un carton rouge à un moment inadéquat, c'est bien Amadou Onana. Donc j'avoue être un petit peu surpris par ça. Cela dit, la deuxième explication de prendre un défenseur en moins pour pouvoir prendre un offensif en plus, je la comprends totalement. Tu joues à 4 derrière, mais tu joues aussi avec 4 offensifs. Et tu sais que ta défense, t'as pas 1000 possibilités. Donc autant tout miser sur l'attaque. Enfin, tout miser, j'abuse, mais on se comprend, quoi. Autant miser plus sur l'attaque et donc avoir beaucoup plus de choix devant. Donc je suis d'accord avec l'explication de un défenseur en moins, un attaquant en plus. Par contre, celle avec le carton rouge, bon, comme on a dit, s'il y en a bien un qui est enclin à prendre un carton rouge dans cette équipe, c'est Amadou. Donc étrange, on va dire.
Ouais, exactement. Et toi, Kako, t'en penses quoi de ces deux explications?
Bah moi je rejoins l'avis de Clément, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vois pas ce que je pourrais rajouter. Vraiment, comme il a dit, on n'a pas 10 000 possibilités en défense. Avoir Amadou comme alternative, ça peut être quelque chose de bien. Si ça permet d'avoir un offensif en plus, surtout que Tedesco, il peut varier les schémas tactiques. Et que lorsqu'on peut se retrouver en 4-4-2, par exemple, comme la deuxième mi-temps, enfin la fin de match contre l'Angleterre, ça peut être intéressant d'avoir un offensif en plus, sachant que bah, ce n'est pas ce qui nous manque en Belgique. Même dans les joueurs qui ont été sélectionnés, on a encore des options qui peuvent être intéressantes.
C'est vrai, Dries Mertens par exemple. Non, je rigole. Et toi, Jules, pareil, quelque chose à rajouter?
Je suis assez d'accord, mais je pense qu'il faut quand même rajouter le fait que Amadou, de tous nos milieux, c'est le seul qui a déjà joué en tant que central au LOSC. Il a fait quelques matchs de dépannage à ce poste-là. Donc, je pense que c'est la solution facile si jamais on doit remplacer un milieu, enfin on doit mettre un milieu en centrale à un moment, bah c'est lui le plus logique. Je comprends même si, oui, effectivement, c'est celui qui a le plus de chances de prendre une carte rouge, c'est celui qui est le plus apte à prendre la place de défenseur central et qui n'en est pas un de base, donc je trouve ça logique.
C'est vrai, surtout que dans une configuration, on va dire, où on prendrait un rouge, on risquerait de reculer et Onana est, ouais, voilà, par sa taille, peut être capable de dégager beaucoup de ballons de la tête. Mais pourquoi, enfin, une petite question, après peut-être qu'il n'était pas prêt, pourquoi pas plutôt tester un théâtre, justement, si tu comptes prendre moins de défenseurs, pourquoi pas tester un théâtre en centrale au cas où, à moins que tu ne fasses pas du tout confiance au latéral gauche que tu es pris pour le seconder, toi Clément
Mais je crois que c'était sorti, je crois avoir lu ça comme quoi si Théâtre n'avait pas été blessé contre l'Irlande, il aurait été testé en centrale. Donc je pense que c'était dans l'esprit Tedesco. Et malheureusement, les muscles de Théâtre lui ont empêché de tester ça. Et donc, par conséquent, le choix à Amadou me paraît logique avec les explications que Jules a données. Il a déjà joué là. Donc je trouve pas ça illogique du tout.
Ça va, je vois, et toi, Jules, t'allais rajouter quelque chose par rapport à ça?
Bah, Théâtre, il connaît le poste de défenseur central, donc un test, ça serait Amadou, et après Théâtre, il jouerait jamais à côté de... Ah non, deux minutes t'es sorti. Non, rien, alors.
Merci, merci beaucoup pour cette intervention. Bon, donc, bon, après ce match, on a vu pas mal d'alarmisme sur les réseaux sociaux, voilà, de la part des supporters après ce match. Est-ce que vous étiez plus inquiet que ça, ou bon, bah, après, on connaît la suite, évidemment, le match suivant, ou pas du tout. Toi, Clément, qu'est-ce que... T'étais inquiet?
Ouais, comme d'hab, je vais dire, comment on dit ça? La culture de l'instant, on était tous contents avant le match quand il y a eu la compo, et puis après le match, on est tous fâchés, et là, 4 jours après, après le match contre l'Angleterre, on est tous contents. C'est culture de l'instant. C'était un match amical en Irlande, devant un public qui est pas facile, enfin, et sur un terrain qui est pas facile non plus d'ailleurs. C'était pas un match facile du tout, un match amical en plus. Il a testé plein de choses. Il s'est fait plaisir. Je pense que Tedesco a vraiment pris le match contre l'Irlande comme un espèce de laboratoire géant où il a pu tester 2-3 petits trucs, enfin, même plus que 2-3 petits trucs, mais voilà. Vraiment avoir une idée de qu'est-ce que ces joueurs remplaçants pour la plupart peuvent vraiment apporter. Est-ce qu'ils ont vraiment une plus-value? On a eu certaines réponses. Il y en a certaines qui sont un peu biaisées parce que, bah, il y en a qui jouent pas beaucoup en club. Je pense à Vermeeren qui voilà, est dans le dur pour l'instant, mais je pense que lui peut vraiment apporter une plus-value. Enfin, voilà. Moi, je ne me fais pas de soucis du tout. On est bien, Tedesco a bien géré, tout va bien.
Débat parallèle, vous avez trouvé l'ambiance. Moi, j'étais déçu un peu de l'ambiance de l'Irlande pour avoir vu leur match face à l'Irlande. Je ne sais pas si on était dans le même stade, enfin à l'Irlande, face à la France, pardon. Je pense qu'on n'était pas dans le même stade, mais j'ai trouvé l'ambiance vraiment bof.
On se croirait presque au l'autoparc.
Gratuit. Toi, Kako, t'en as pensé quoi?
Non, franchement, c'est à l'image des matchs amicaux. Tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'engouement. Voilà, c'était plus une ambiance familiale qu'autre chose.
Ouais, je vois. S'il y a des supporters d'Andorra qui nous écoutent, évidemment, j'ai l'adresse de Jules et je me ferai un plaisir de vous la communiquer. Donc, pour maintenant terminer sur ce point, est-ce que vous avez des joueurs que vous vouliez aborder par rapport à ce match ou des points tactiques ou pas, même s'il n'y a pas eu grand-chose tactiquement, Clément?
Moi, non, en tout cas, moi, pas forcément. C'était du test, voilà, ça n'a pas marché pour la plupart, c'est pas grave. C'était un match amical, on s'en fout, on va de l'avant et tout se passera bien dans le futur. Peut-être quand même juste parler un petit peu de Vranks, parce que il a eu du mal contre l'Irlande et je trouve qu'il est bien monté contre l'Angleterre. Voilà, c'est des joueurs, s'ils ont quand ils récupéreront leur confiance, ça ira mieux. Il n'y a pas de souci à se faire avec ça.
Ça va être... Kako, ouais, toi, t'as quelque chose à rajouter ou...
En tant que spectateur devant ce match, certes, on s'est ennuyé, mais pour moi, c'était la dernière échéance où Tedesco pouvait faire des tests avant l'Euro. Du coup, pour moi, ça ne me pose pas de problème. C'est lui le sélectionneur, c'est ce qu'il fait. Et puis voilà, même si c'est au détriment du spectacle, c'est le moment de le faire.
Ouais. Et toi, Jules, il y a un joueur que tu aimerais parler, je ne sais pas, tu aimerais dire des choses sur Olivier Demann, sur Johan Bakayoko, puis dis non au hasard.
Non, pas grand-chose, hein. Je préfère pas en parler d'Olivier Demann, mais Johan, je trouve ça un peu décevant. Mais il est dans le dur, je pense, au PSV. Et donc, ça ne me surprend pas, en fait, que ça soit la même chose en équipe nationale.
Ah, exactement. Donc, on va passer au vrai match de football hein, qui a eu lieu pendant cette trêve. Donc, Angleterre-Belgique, un nouveau match nul, mais avec des buts et quand même d'un autre niveau et d'une autre intensité. Donc, sur le score de 2-2, Tielemans double buteur. Alors, pour les compositions, là, je vais dire les deux compositions. Donc, la Belgique était en 4-3-3, donc avec Mats Hels une nouvelle fois au goal, une défense à 4, donc, je l'ai déjà dit, Castagne, De Bast, Vertonghen, Arthur Théat. Au milieu de terrain, Mangala, Amadou Nana, Yuri Tielemans. En attaque, Trossard, Lukaku, Doku. Pour ce qui est des Anglais, un 4-2-3-1 avec Pickford au goal, une défense de droite à gauche, Konsa, John Stones qui est sorti assez tôt sur blessure, Lewis Dunk, Chilwell. Au milieu de terrain, le jeune Kobe Mainoo, Declan Rice, puis devant Phil Foden, Bellingham en 10, Bowen sur le côté droit et en attaque, Ivan Toney. Donc on a eu Trossard et Doku, j'ai dit, mais ils ont quand même permuté. Enfin, pendant le match, à un moment, Doku était sur la droite, puis était sur la gauche. Un très gros match de Cels. Après son pénalty arrêté face à l'Irlande, ici, il a fait un très très bon match. Donc une équipe qui était dominée, mais c'était assez normal à l'extérieur quand même face à l'Angleterre qui venait de perdre face au Brésil. Pour commencer, comme face à l'Irlande, qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cette compo, une compo avec beaucoup plus de titulaires, un gros test, j'ai envie de dire aussi quand même. Jules, toi, t'en as pensé quoi en voyant cette compo?
Ben moi, j'étais assez content et pas du tout surpris. Pour moi, c'était la compo qu'on attendait. Et j'étais content de, je pense que c'est lui le gros test dont tu parlais, mais j'étais content de voir Zeno titulaire. En plus, avec Vertonghen qui le connaît bien, donc... Non, j'étais content.
Bravo à Yann de connaître Zeno. on en parlera un petit peu plus tard. Je vais aller. Donc, c'était quoi vos. Je vais aller quand même un petit peu plus loin. C'était quoi vos impressions en sortant de ce match? Plusieurs sentiments. Clément, toi, t'en as pensé quoi du match?
Le match en lui-même, c'est en gros ce à quoi on va devoir s'attendre pendant plusieurs années. C'est-à-dire une Belgique qui va souffrir contre les grosses équipes et qui va devoir faire preuve de combativité et surtout de résilience parce que tu as une défense que tu ne peux pas masquer autrement qu'en mettant un bloc très bas et en jouant sur les contre-attaques. Mais je vais te dire, moi je préfère qu'on joue comme ça plutôt que jouer à la baballe comme on l'a fait pendant tout un temps pour au final se faire battre de manière un petit peu bête. Dixit le match contre la France où on essaye de faire le jeu, on n'y arrive pas et au final on se fait avoir bêtement. Et ça, je crois que ça avait déjà laissé un traumatisme parce que après ce match contre la France, Martinez il a aussi essayé d'implémenter un bloc un peu plus bas, sauf que c'était une catastrophe, on n'y est pas arrivé. Je trouve que Tedesco, là en un an, il a réussi à poser ses bases et donc c'est rassurant pour la suite.
Et toi, Kako, c'était quoi tes sentiments après ce match? Content, rassuré, frustré?
Non, j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais. Enfin, on a enfin pour moi une Belgique qui joue avec ses forces, tout en ayant conscience de ses faiblesses. On voit que avec les ailiers qu'on a aujourd'hui, que ce soit en titulaire ou sur le banc, on peut vite se projeter vers l'avant. Et ce bloc bas qui permet d'essayer de masquer des fois le déficit de vitesse de nos défenseurs, comme on a pu le voir face à l'Angleterre. Une fois qu'ils accéléraient, ça devenait un peu compliqué pour certains défenseurs. Mais on voit que Tedesco, il sait ce qu'il fait. Et c'est plutôt encourageant pour l'avenir, parce qu'on voit qu'on est avec une équipe nationale qui est toujours en phase de transition entre la génération qui part et la nouvelle génération avec les Doku, Bakayoko, etc.
Et toi, Jules, même sentiment?
Moi, je trouve ça assez rassurant, oui. Mais pour un peu faire l'avocat du diable du côté négatif, ça serait plutôt que si on veut aller gagner un euro. Pour moi, ce match-là, alors, il n'est pas rassurant parce que tu montres, avec un peu de réussite, l'Angleterre en met 5, voire 6. Et donc, je me dis que c'est un peu de la chance d'aller chercher ce match nul, même si on l'a un peu provoqué. Mais est-ce qu'on pourra faire cet exploit en quart de finale, en demi-finale et puis en finale? Parce qu'en gros, pour gagner un euro ou une Coupe du Monde, il y a trois gros matchs en général à jouer. C'est ce qui devrait se passer si on finit premier de groupe et qu'on connaît la suite. Il y aurait trois gros matchs. Donc, est-ce qu'on peut gagner trois gros matchs de cette façon? Je ne pense pas. Mais est-ce que le but, c'est de gagner un euro? Je ne pense pas non plus. On est en transition et je pense qu'un quart de finale voire demi-finale, c'est déjà un très très bon résultat, donc rassurant quand même.
Ouais, j'ai vu Kakou voulait réagir, mais deux secondes. Après, on a vu, j'ai vu une Angleterre qui a fait demi-finale de Coupe du Monde en 2018 en jouant la Colombie, la Suède et en sortant contre la Croatie. Donc, trois gros matchs, tout dépend un peu du tableau, surtout dans un Euro avec beaucoup plus d'équipes, avec des meilleurs troisièmes. Là, j'étais sur un site où j'ai fait un petit peu mes pronos et je suis arrivé avec une Belgique qui jouait l'Autriche en quart de finale et en huitième, je sais plus, mais c'était un troisième de groupe. Donc, pour moi, tu es très vite dans ces nouveaux formats, arrivé en demi-finale de l'Euro, en ayant joué des équipes assez. Pas des grosses équipes. Et puis, même des grosses équipes, est-ce qu'il y a tant de grosses équipes en Europe? Quand je regarde, il y a l'Allemagne qui commence à se trouver, mais qui, bon, voilà, c'est quand même une équipe qui a enchaîné beaucoup de défaites et qu'on m'a battu il n'y a pas si longtemps. Mais bon, avec un autre sélectionneur, il y a la France qui a pas été rassurante. Il y a les Anglais qui aussi sont pas rassurés avec un nul, une défaite. Le Portugal qui a affronté que des équipes en dessous de la 50e place FIFA. Je sais pas. Moi, je sais pas s'il y a vraiment tant d'équipes qui sont sûres d'elles, sûres de leur jeu en Europe. Sinon, Kako, tu voulais réagir?
Oui, non, mais moi, je pensais que le résultat, en fait, faut l'interpréter en fonction de ce qu'on vise comme objectif à 7 euros. Si tu te dis que la Belgique, tu les vois gagner. Oui, c'est vrai que le match, il est pas rassurant. Mais moi, personnellement, cette équipe, moi, j'en attends en quart de finale. Certains vont dire, ouais, c'est pas assez ambitieux. Mais moi, je vois pas l'équipe là aller plus loin que le quart de finale. Mais j'espère qu'ils me feront mentir. Mais au regard de la situation actuelle et la phase de transition dans laquelle on est, j'en attends pas plus que ça. Et comme t'as parlé des autres sélections, je pense quand même que malgré tout, la réalité de la compétition avec l'expérience que ces sélections ont et les joueurs qu'ils ont, des effectifs beaucoup plus fournis en termes de qualité. Je pense que une fois arrivé dans les moments cruciaux, on va ressentir ce gap entre les sélections.
Oui, mais bon, l'Euro 2021 était quand même un bon exemple. On n'était pas dans une bonne phase. On sort le Portugal qui était le vainqueur en titre. La Suisse sort la France et la France était championne du monde en titre. L'Allemagne sort face à, bon, certes l'Angleterre, mais c'était un petit peu un match. Normalement, c'était les Allemands qui étaient quand même censés être supérieurs au vu des récentes années, même s'ils avaient raté en leur Coupe du Monde 2018. Donc, moi, je dis attention. En plus, on l'a vu aussi avec la dernière CAN. Attention, les statuts, tout ça en compétition. J'ai l'impression que tout est un peu mélangé.
Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y aura toujours le petit poussé qui va venir frapper le gros, comme à l'Euro 2016, quand on joue le Pays de Galles. Pour nous, on pense qu'on va passer les doigts dans le nez et au final, on rentre à la maison.
T'étais pas obligé d'en parler, hein. Franchement, t'étais pas obligé de rappeler ce match. Donc, on va passer à autre chose. On va passer au grand monsieur de cette rencontre, Tielemans, double buteur, très grand match, hein. En dehors des buts, vraiment un très grand match de Tielemans, que ce soit physiquement, que ce soit dans sa capacité de passe. Est-ce que Youri Tielemans, selon vous, avec ce match, peut être plus qu'une doublure au milieu de terrain? Clément, toi, t'en penses quoi?
Ben, plus qu'une doublure, c'est compliqué, parce que le problème de Tielemans, c'est que le poste où il est le plus performant, c'est le poste de Kevin De Bruyne. Et tu peux être autant performant que tu veux, tu ne prendras pas la place de ton capitaine, à part s'il n'est pas là. Donc, je dirais, dans une sélection sans Kevin De Bruyne, oui, évidemment, avec le match qui nous pond contre l'Angleterre, évidemment, il confirme sa place de... Moi, j'ai appelé ça sur joueur belge de doublure de luxe. De KDB, mais si Kevin arrive fit à l'Euro, aussi bon soit Youri, il sera sur le banc, malheureusement, parce que on peut pas le redescendre, parce qu'il sera beaucoup moins performant si tu le mets à la place de Onana ou de Mangala, et en plus le duo Onana-Mangala est imbougeable, donc c'est dommage pour Youri, on va dire qu'il est là au mauvais moment, mais peut-être pour la suite, pourquoi pas.
Oui, justement, parce qu'il y a eu quand même, De Bruyne était absent pas mal de fois avec les Diables, on a vu Carrasco, on a vu Trossard, est-ce que maintenant pour vous c'est une évidence, Tielemans, en tout cas si De Bruyne est absent, c'est Tielemans qui doit se retrouver derrière l'attaquant? Jules, t'en penses quoi? Pour toi c'est maintenant devenu évident que Youri Tielemans est le remplaçant de Kevin De Bruyne?
Oui, je le pensais pas avant le match. J'avais pas vraiment d'idée, pour moi je voyais plus de Keutelaar, mais vu le match qu'il a pondu, c'est impossible de le remettre sur le banc après ça si De Bruyne n'est pas là à l'Euro.
Clément, même avis?
Ouais, bah oui, mais justement, c'est bien que tu parles de De Ketelaere parce que c'est lui qui doit s'en mordre les doigts le plus. Il était sélectionné, il se blesse malheureusement. Je pense que lui, il aurait eu une vraie carte à jouer aussi s'il avait été là. Donc, mais voilà, je vais dire, c'est la loi du plus fort et actuellement, bah, le plus fort, c'est Tielemans. Donc, c'est dommage pour Charles, mais je suis très content pour Yuri parce qu'on lui a chié dessus pendant des années et là, il commence vraiment à revenir à haut niveau. Et je vais même te dire, je pense que c'est la meilleure version de Tielemans que j'ai vue, moi, depuis qu'il a commencé sa carrière.
En équipe nationale, il peut pas dire autre chose et les absents ont toujours tort, malheureusement, pour De Ketelaere. Bah, on avait parlé dans une autre émission et j'avais dit que pour moi, Tedesco ne pouvait rien faire pour Tielemans, mais s'il y a quelqu'un qui pouvait le sauver, c'était Unai Emery. Apparemment, c'est ce qui est en train de se passer quand on voit ses performances. Toi, Kako, tu as quelque chose à rajouter sur Youri Tielemans?
Moi, il m'a fait mentir. En toute honnêteté, moi, je le mettais au fond du trou après Leicester. Mais voilà, force de constater que Aston Villa, il reprend des couleurs et là, en sélection, bah, il se retrouve titulaire et il est performant. Voilà, il a su saisir sa chance et bah, du coup, malheureusement pour lui, ce sera la doublure de Kevin De Bruyne, mais on peut au moins se targuer d'avoir cette doublure de luxe.
Ouais, mais justement, là, j'y pense, parce que j'avais vu une réponse à notre tweet d'un certain arroba Jules Bock. Est-ce que vous pensez pas que on pourrait, si on a un ailier droit qui performe et on en parlera un peu plus tard, mais est-ce que Tielemans et De Bruyne ne peuvent pas jouer ensemble? Quand on voit par exemple qu'à Manchester City, De Bruyne a joué, on va dire, en une sorte de double pivot de numéro 10 avec Gundogan à un moment. Est-ce que c'est pas possible d'avoir une association entre les deux à un moment donné? Toi, Clément, ça t'en...
Pour moi, le problème, c'est que si tu fais cette association, tu vas devoir probablement modifier ton dispositif. Ce que Tedesco n'est, je pense, pas enclin à faire. Je crois que ça y est, Tedesco, il a son noyau, c'est-à-dire en paire de balles, souvent un petit 4-1-4-1, ou alors un 4-4-2, ou alors un 4-3-3. Je pense que si tu veux jouer avec Tielemans et De Bruyne, tu dois faire comme le Manchester City Guardiola et jouer à 3 derrière. Et faire un espèce de 3-2-4-1, mais ce qui, je pense, n'aiderait pas cette Belgique à aller mieux. Si, offensivement, forcément, t'as deux armes qui peuvent être très dangereuses, mais pour le reste de l'équipe, pour l'équilibre de l'équipe, je crois que ce serait pas une bonne idée.
Ouais, c'est sûr, quand t'as déjà du mal à trouver deux bons centraux, alors si tu dois en prendre trois, ça va être plus compliqué. Justement, bah, on en aborde un petit peu la défense, donc le duo d'Anderlecht qui a joué. Bizarrement, peut-être le joueur qui a le plus déçu était le joueur pourtant le moins attendu. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Yann Vertonghen, qu'on peut dire qui était en difficulté? Toi, Jules, qu'est-ce que tu en as pensé de Yann Vertonghen?
Bah, sa prestation n'est pas bonne, personne ne pourra dire le contraire, mais je pense qu'il faudra. Enfin, on sait que notre défense sera problématique à l'Euro et faudra faire avec et juste marquer plus de buts que l'adversaire. Hein. Je pense que ça sert à rien de d'éterniser un débat sur notre défense. Dans tous les cas, elle sera pas au niveau du top mondial, donc il faut marquer plus que l'autre.
Pour toi, Clément, est-ce que on peut encore changer quelque chose ou est-ce que là c'est trop tard, on est obligé de partir avec Woodfaz et Yann Vertonghen ou est-ce qu'il peut y
Écoute.
avoir un changement? On a beaucoup parlé du changement Woodfaz qui était demandé, mais est-ce que c'est pas Yann Vertonghen qui devrait peut-être céder sa place?
Écoute, j'ai envie de te dire un truc. Avant la Coupe du Monde 2022, on avait exactement les mêmes discussions. La défense, ça va pas le faire. Il va falloir qu'on donne tout sur l'offensive. Qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde? Un but en trois matchs qu'on a marqué. Et qui fait une excellente Coupe du Monde? Yann Vertonghen, Toby Alderweireld. Donc, moi, je pense que on peut encore espérer quelque chose de Yann. Est-ce qu'il arrivera encore à se sublimer une nouvelle fois dans une compétition internationale? Je sais pas, mais je l'espère. C'est une possibilité. Donc, moi, je me dis, attendons de voir le tournoi. Franchement. Mais on sait que sur le papier, on est clairement en dessous de plein de bonnes équipes. Mais je sais pas, j'ai ce feeling, je me dis, allez. Une compétition internationale, est-ce que Yann ne peut pas encore nous ressortir son chapeau magique et nous faire comme la Coupe du Monde 2022, où j'ai envie de dire c'est un des rares qui peut partir du Qatar la tête haute. Pourquoi pas?
C'est vrai, c'est, ouais, c'est vrai,
Pourquoi
exactement. Ça a été la seule bonne chose à retenir. C'était les joueurs les plus critiqués. C'était la défense qui avait fait une très bonne Coupe du Monde. Toi, Kako, tu crois que Jan Vertonghen, c'est un défenseur, parce que bon, c'est un défenseur d'expérience qui a joué en première ligue, qui a une expérience longue comme le bras. Est-ce qu'il est capable de se sublimer? Personnellement, je me souviens dans 2014, c'était un Demichelis qui pourtant avait un tracteur au cul, qui fait une Coupe du Monde vraiment très très bonne avec l'Argentine. Est-ce que pour toi, il peut, sur un tournoi, élever son niveau et, avec l'expérience, tenir une défense?
Oui, pour moi, oui, je pense. Mais surtout aussi, c'est notre défenseur le plus fiable, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver aujourd'hui. Mais voilà, il a de l'expérience, il connaît le haut niveau. Et puis voilà, à côté, on n'a que des défenseurs relativement jeunes, on va dire, et on n'a pas 46 alternatives.
Et voilà, et pour parler de son compère, donc De Bast, qui a eu enfin reçu sa première titularisation en tant que défenseur central sous Tedesco, lui qui avait peut-être été lancé, je pense, à mon humble avis, trop tôt dans le bain par Roberto Martinez, qui cette saison, voilà, on voit que jouer avec Vertonghen, il apprend beaucoup défensivement. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Plutôt convaincu? Est-ce qu'il a validé sa place à l'Euro, surtout quand on parle de l'idée que Tedesco aurait de partir avec seulement 7 défenseurs? Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Zeno De Bast? Ouais, Jules?
Ouais, bah pour moi il fait un bon match, assez surpris. Mais par contre, pour moi, il gagne pas du tout sa place à l'Euro aujourd'hui. Il l'avait déjà totalement acquise, je pense.
Donc tu penses qu'il avait déjà ta main qui ça va? Et toi,
Ouais.
Clément, non, je le dis si t'as quelque chose.
Bah, par le fait qu'il a su dépanner à droite et qu'il n'avait pas fait un mauvais match, et puis sa bonne saison à Anderlecht, je pense qu'il l'avait totalement acquise.
Et toi, Clément, t'en penses quoi?
Ouais, au final, c'est à peu près la même chose. Il a fait un bon match sans être forcément impressionnant non plus. Pour moi, c'est le seul point d'interrogation, hein, cette charnière. Le seul truc qu'on peut espérer à l'Euro, c'est comme j'ai dit avant, c'est que les deux se subliment et qu'ils nous fassent quelque chose de bien. Mais c'est trop tendre, je pense, Zeno. C'est trop tendre. Mais pareil, hein, pour moi, ce match-là ou pas, il allait à l'Euro. Je crois que la dernière place en défense centrale se joue peut-être entre De Winter, peut-être, enfin j'allais dire Aldakil, mais Aldakil est mort depuis 3 mois, je sais pas ce qu'il devient. Mais non, Zeno il ira à l'Euro, il n'y a pas de souci.
Toi, Kako, sur la même longueur d'onde, il était
Moi, je suis
déjà à
d'accord
l'Euro?
avec. Moi, je suis d'accord avec eux. Pour moi, sa place dans le groupe, bah, elle était déjà acquise. C'est pas ce match-là qui va changer quelque chose. Mais sa place en tant que titulaire, ça, c'est encore un autre débat. Et pour moi, je ne le vois pas commencer dans la charnière centrale à l'Euro. Comme l'a dit Jules ou Clément, c'est encore un peu trop tendre.
Mais ouais, mais moi je vous trouve vraiment positif dans le sens, positif, pas positif sur Zeno, mais dans le sens que sa place est déjà acquise, parce que moi je me souviens que c'est dans la première trêve, il reçoit aucune minute de jeu. Après 1 an seulement, il reçoit sa première titularisation en défense centrale. À l'époque, je pense qu'Aldakil était devant lui, donc pour moi sa place, elle n'était pas si acquise de ça, et en plus j'étais même étonné de voir De Winter commençait, mais bon, après on a vu que c'était pour qu'il commence face à l'Angleterre. Mais bon, moi, je n'étais pas aussi sûr que ça, que dans la tête de Tedesco, vu que c'est peut-être un défenseur qui a quelques lacunes, qui est plus un joueur de football qu'un défenseur, et qu'on a déjà des problèmes en défense, peut-être que pour moi, c'est pour ça qu'il a hésité longtemps à vraiment lui donner sa chance. Voilà, on va passer vite fait au milieu de terrain. Donc le milieu de terrain qui a fait un gros match. Est-ce que c'est acté, c'est signé, c'est bouclé? On part avec une doublette au milieu, Onana Mangala, ouais, Clément?
Évidemment, évidemment. Les deux sont intouchables pour moi. Il n'y a pas de doute. Tu peux mettre qui tu veux à leur place, ça ne fonctionne pas aussi bien. J'ai été impressionné du match de Mangala contre l'Angleterre parce que ce soit à la récupération ou à la conservation du ballon, pouah, il est précieux en fait. Les deux, Onana et Mangala, ont chacun, je vais dire, leur qualité. Je trouve qu'ils ont tous les deux, déjà à la récupération, les deux, c'est des monstres. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que Tedesco considère plus Onana comme le 6, on va dire. Pour moi, ce serait peut-être plus logique de mettre Aurel, que cette pointe basse soit Aurel et laisser Onana un peu plus haut. Je trouve qu'on se prive de certaines qualités d'Amadou en le mettant plus bas. Mais si tu fais un double pivot, il n'y a pas de doute, c'est ces deux-là, de très très loin.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ouais, même si je trouve que Mangala avait un petit peu de mal au début de match, mais il a vraiment grandi. Il a pris confiance après, comme je l'avais dit, ça faisait longtemps qu'il avait pas joué, tout simplement, vu qu'il était malade, blessé avec Lyon, je ne sais pas exactement. Toi, Jules aussi, c'est pareil, c'est acté. Et oui, je voulais rajouter aussi. De toute façon, Clément, il n'y a pas d'autres joueurs. De toute façon, même si on voulait, il n'y a pas vraiment d'autres joueurs pour les remplacer.
Ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est acté parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs dans tous les cas.
Et Kako, pareil, bouclé.
J'allais dire la même chose, que ce soit la défense ou le milieu de terrain. En vrai, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'alternatives? On va pas débattre 1 000 ans là-dessus parce que, in fine, on n'a pas beaucoup d'alternatives.
Ouais, exactement. Mais voilà, franchement, et là, ça me rend un peu triste. J'ai vraiment l'impression que Sambi, il s'est blessé au pire moment, parce que je pense que c'était vraiment le joueur qui aurait pu être le troisième, en tout cas derrière ces deux-là, pour venir ben, les challenger et même les remplacer. Honnêtement, je doute que ce soit Wrangs ou Vermeeren, avec le peu de temps de jeu qu'ils ont, qui puissent vraiment, que ce soit les mettre en difficulté eux, ou même rentrer dans un match où on sera en difficulté, s'il y a un des deux qui est fatigué. Honnêtement, je suis un petit peu inquiet. Mais bon, croisons les doigts que, ben, par exemple, Wrangs, qui a un nouveau coach maintenant, puis jouer un petit peu plus. Donc, on va terminer par une petite note pour ce sujet. Quelle note donneriez-vous sur 10 à cette trêve pour nos diables rouges? Je vais commencer par toi, Kako.
Moi, je donnerais une note de 6 sur l'ensemble des deux matchs. Le premier match, c'était un match vraiment où il y a eu beaucoup de tests. Personnellement, j'en retire pas grand-chose. Et puis le match contre l'Angleterre, on fait un bon résultat, mais comme ça a été dit au début, voilà, on s'en sort quand même plutôt bien parce que les Anglais, ils ont beaucoup raté. Mais voilà, le 6, c'est pour les choses positives qu'on a pu voir et puis pour les nouveaux joueurs qu'on a pu aussi voir avec la sélection.
J'imagine que dans le 6, il y a 5 pour l'Angleterre et 1 pour le match face à l'Irlande.
Voilà.
Et toi, Jules, quelle note tu donnerais sur 10 à la trêve de Diable Rouge?
Moi, je donnerais 7, à peu près pour la même raison que Kako, mais 7. C'est un peu plus positif quand même.
Ouais, il faut être déjà été l'avocat du diable tantôt. Et toi,
C'est
Clément?
ça. Je dirais 7 aussi. Parce que c'était l'avant-dernière trêve avant l'Euro. Il y en a une dernière juste avant, contre le Monténégro et le Luxembourg. Donc bon, ce sera pas des matchs exceptionnels. Donc, on attendait des réponses de cette trêve et on en a eu des réponses sur déjà le 11 titulaire. Pour moi, le seul point d'interrogation qui reste, c'est la charnière centrale. Sinon, le 11 de base, pour moi, il est clair et net. Je sais pas si vous voulez que je le dise ou pas, parce que de toute façon, je pense que les gens sont à peu près, les gens qui suivent beaucoup la sélection le savent.
Bah, s'il est
Le
clair et
11,
net,
il
petite
est.
question,
Ouais.
alors, t'es qui tes deux défenseurs centraux et c'est qui ton ailier droit?
Mon ailier droit, c'est Dodi Lukebakio, évidemment. Johan c'est pas encore assez au niveau pour démarrer, encore moins dans un grand tournoi, je pense. Et pour moi, la charnière, bah, Yann, il bougera pas. Qu'on le veuille ou non, bah, c'est aussi un peu le patron, même si c'est un patron très lent et ça reste un patron derrière. Et je pense pas que Zeno ait pris la place de face avec son match contre l'Angleterre. Donc on ira avec Yann et Wout. Hein.
Ouais, en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que avec Woodfaz, si on regarde que les minutes où il était là, on a perdu le match face à l'Angleterre. Donc on va passer maintenant au sujet suivant, un petit peu résumé. Donc gagnant-perdant. Donc qui sont les gagnants et les perdants de cette trêve? Donc je vais vous citer des noms. Vous allez me dire gagnant ou perdant pour cette trêve, et vous allez me dire si c'est gagnant-perdant pour aller à l'Euro ou pour le 11 titulaire. Donc je vais commencer par le premier nom. Thomas Meunier, pour toi, Jules, gagnant ou perdant?
Gagnant. Malgré son erreur sur le 2-2, je pense que il est gagnant vis-à-vis de sa montée face à l'Irlande.
Et toi, Gaco?
Gagnant pour être dans le groupe, pas plus.
Et Clément?
Moi, ouais, voilà, il y a la précision de il a perdu sa place dans le 11 parce qu'il fait une bonne montée contre l'Irlande, mais il fait une montée cata contre l'Angleterre. Et à l'inverse, t'as Castagne qui fait un match dégueu contre l'Irlande et qui fait un très bon match contre l'Angleterre. Mais par contre, il ira à l'Euro, hein, Thomas. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Je préfère que ce soit Meunier le remplaçant de Castagne plutôt que d'avoir Salemakers, latéral droit,
Et
ou même Hugo Siquet, qui est, je pense, encore un peu tendre aussi.
tu veux pas
Moi,
de
tu vois.
Jules à l'Euro, c'est ça que tu nous dis.
C'est ce que je vous dis, tout à fait.
Donc maintenant on va passer au nom suivant, Bakayoko, et je reste avec toi, Clément.
Johan, perdant, hein. Il sera à l'Euro, ça je pense qu'il n'y a pas de doute, mais il perd sa place de titulaire. Enfin, je ne sais même pas s'il perd sa place de titulaire. Pour moi, il n'était déjà pas titulaire de base. Pour moi, Bakayoko, il perd pas, il gagne pas, juste, bah, il va dire, il a perdu sa chance de peut-être aller embêter Dodi à sa place d'attaquant droit, pardon. Donc, pour moi, Bakayoko, voilà, il sera remplaçant à l'Euro, et c'est logique.
Et toi, Kako, pareil?
Pareil, Bakayoko, pour moi, il est perdant. Enfin, dans tous les cas, c'est pas un joueur que je voyais comme titulaire dans le 11 pour commencer à l'Euro, du coup. Voilà. Sans plus.
Jules, même lignée, perdant? Enfin, perdant sans être perdant, parce qu'il avait en fait rien gagné.
Non, pour moi, c'est vraiment l'énorme perdant parce que je pense qu'il y a un monde où il va pas à l'Euro. Dans le sens où Carrasco va revenir et qu'il va faire sauter un ailier, enfin, un joueur offensif, et que si on part du principe qu'on double chaque poste, ça veut dire qu'on prend quatre ailiers, Carrasco, Trossard, Luke et Bakayoko, deux coups. Il n'y a pas la place pour Bakayoko. Donc, il va falloir faire des choix. Est-ce qui va sauter? Est-ce que ça va être plutôt un numéro 10 et qu'on n'aura que De Bruyne en tant que pur remplaçant 10, pas de remplaçant pur 10 à part Tielemans, mais qui compterait dans les milieux. Ou est-ce que Bakayoko va sauter? Je sais pas, mais si un ailier saute, je pense que ce sera Bakayoko, donc c'est le grand perdant.
Et pour toi, tu verrais pas Trossard dans un rôle d'attaquant dans l'hypothèse où il prend quatre attaquants, donc Lukaku, Michy, Loïs et Trossard?
Mais pourquoi quatre attaquants si on double chaque. Enfin, je suis parti du principe qu'on doublait chaque poste. Ça veut dire que
Ouais, mais
deux
parce
attaquants
qu'on a la
sont.
variante, on peut avoir la variante où ils jouent en 4-4-2.
Ouais, mais je pense pas qu'il y aura de variante en 4-4-2. Je pense même pas que Michy. Enfin, je suis même pas sûr que Michy ira à l'Euro. Donc partir du principe que Trossard serait le quatrième attaquant, encore moins. Trossard, il y sera, mais en tant qu'ailier, je pense.
Mais alors, si tu
C'est
vois pas
vrai.
Michy, tu vois qui dans la hiérarchie? Tu le vois juste prendre deux attaquants, Lukaku et Loïs.
Ouais.
Ok.
Intéressant, c'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est vrai que d'ailleurs, c'est peut-être un message en fait qu'il envoie en faisant, donc en commençant, où il met donc Luke Bakayoko sur le banc. Ça, c'est pas, on va dire, c'était pas une punition quoi. C'est juste que c'est quand même un joueur qui revient de blessure face à l'Angleterre, mais qui ne met même pas Bakayoko et qui préfère commencer en Angleterre avec Trossard sur le côté droit, même si ça a varié avec Doku aussi qui a été beaucoup sur le côté droit. Est-ce que ouais, c'est peut-être un message en fait. Et c'est vrai que maintenant que Jules le dit, j'y avais pas pensé, mais en fait, oui, Bakayoko peut sauter parce que. Moi, en tout cas, honnêtement, à part sa rentrée ou son premier match contre la Suède, où c'est voilà, c'est un vent de fraîcheur, je trouve que voilà, il a du mal à passer ce step très important et très difficile en équipe nationale pour un offensif. Il y a des très grands joueurs qui ont toujours eu du mal à passer ce step. Et là, pour le moment, j'ai l'impression que c'est peut-être une marche un peu haute d'être titulaire et que s'il n'apporte pas non plus comme remplaçant, il n'y a pas de grande raison de l'avoir dans le groupe. En effet, c'est pas faux. On va passer donc à un autre nom. On va faire un dernier nom. Olivier Deman, gagnant ou perdant de cette trêve?
C'est le très grand perdant, je crois. Enfin, oui, bah, de toute façon, je pense qu'il ira quand même à l'Euro, mais parce qu'il n'y a pas d'autre solution, j'ai envie de dire. À part si Tedesco nous sort encore un nouveau nom de son chapeau magique et qu'il considère Castagne comme potentiellement remplaçant à gauche à la place de Théâtre et qu'il fait venir Meunier. Mais Deman contre l'Irlande, c'était pas facile, hein. C'est dommage pour lui parce que je trouve qu'au Verder, enfin, je vais pas faire genre que je regarde tous les matchs du Verder, mais du peu que j'ai vu, c'était quand même plutôt ok. Mais là, en équipe nationale, pour l'instant, je vois pas ce qu'il lui trouve en plus, ce qu'il trouve en plus par rapport à Maxime de Kuyper, par exemple. Donc voilà, ça, j'avoue que c'est un des choix de Tedesco avec lequel j'ai du mal. Olivier Deman, maintenant, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui a ses diplômes et pas moi, donc je fais confiance quand même au chef.
Toi, Kako, alors pareil, gagnant-perdant, demain, j'imagine qu'il n'est pas gagnant.
Non, il est perdant. La prestation qu'il nous a livrée face à l'Irlande, moi, je l'ai trouvée très inquiétante. J'espère, enfin, personnellement, même le voir dans le groupe, pour moi, c'est une interrogation.
Ouais, je suis sur la même ligne que toi et toi, Jules. Demain, gagnant, pardon. Bon.
Pour moi, c'est assez neutre parce qu'il ne fait pas des bons matchs, mais il n'est pas perdant parce qu'il perd rien. Je pense qu'il ira à l'Euro parce que De Kuyper n'a pas l'air d'être une solution Tedesco. Et titulaire, il ne l'aurait jamais été. Donc, en fait, même s'il fait des mauvais matchs, il n'a rien perdu.
Moi, c'est vrai, en fait, dans ce sens-là, il n'a rien à perdre parce qu'en fait, pour Tedesco, il n'a pas, il n'y a pas d'autre deuxième, enfin, il n'y a pas d'autre latéral gauche en Belgique, en fait, à part eux. Et bon. Mais j'aimerais en tout cas, si quelqu'un sait quelque chose sur les relations, peut-être familiales, qu'il y a entre Olivier Deman et Domenico Tedesco, n'hésitez pas à nous contacter. On aimerait en apprendre plus et pouvoir comprendre. Et donc, maintenant, on va aborder le dernier cas, on va dire, de cette trêve internationale pour les Diables Rouges avec un cas. Un qui était peut-être un grand perdant de cette trêve internationale. Il y a un autre qui était le grand gagnant, le cas Castells. Donc Castells était donc sélectionné. Il devait même porter le numéro 1 de Thibaut Courtois. Je pense que ça veut dire quand même beaucoup de choses dans la hiérarchie. Malheureusement, blessure à l'épaule qui lui fait rater le match face à l'Irlande. Il est sur le banc, mais il ne peut pas jouer. Face à l'Angleterre, il quitte. Donc il quitte le groupe et n'est même pas sur le banc face à l'Angleterre. Sells joue les deux matchs, arrête un penalty face aux Irlandais. Joue un très bon match face aux Anglais. En termes de chiffres, Castells sous Tedesco, c'est trois matchs de qualification et un match amical. Sells, c'est trois matchs de qualification et trois amicaux. Alors moi, je vais vous poser la question. Est-ce que Mats Sells a gagné la place de numéro un pour l'Euro avec cette trêve internationale? Clément, dis-moi.
Je l'espère pour lui, parce que il le mérite pour tout ce qu'il a fait déjà à Strasbourg. C'est une légende à Strasbourg. Ça a été un des meilleurs gardiens de Ligue 1 pendant plusieurs années. Là, j'avoue que j'ai pas encore trop vu ce qu'il donne à Nottingham, mais je trouve qu'il mérite mieux que Nottingham, honnêtement. Je suis content pour lui et j'espère vraiment que Tedesco va prendre ces deux matchs en compte pour sa hiérarchie. Après, voilà, à voir comment Castells pourrait réagir aussi. Tant que Castells ne fait pas une Courtois, tout va bien, quoi. Mais j'espère vraiment que Sels a gagné sa place de titulaire, moi, en tout cas.
Kako, toi, c'est quoi ton avis sur le sujet Castells? Est-ce que maintenant il y a un nouveau numéro 1 ou pas?
Moi, déjà, les prestations de Sels, je les ai beaucoup, beaucoup aimées. Franchement, il était plus que rassurant. C'est un très bon gardien. Personnellement, j'aimerais bien le voir dans les cages à l'Euro, mais après, ça reste le choix du sélectionneur. C'est lui qui sait comment gérer la situation pour qu'aussi ça ne fasse pas trop de remue-ménage dans le groupe.
C'est vrai qu'on a déjà eu assez de remue-ménage, surtout au poste de gardien. Et toi, Jules, Castells, numéro 2 pour l'Euro?
Je pense pas, parce que les entraîneurs, ils ont quand même difficile à changer une hiérarchie. Et la hiérarchie, elle était claire, c'était Castells derrière Courtois. Donc je suis pas sûr que celle-ci passera devant, même si oui, il fait des bons matchs. Après, il faut apporter une petite nuance, je pense quand même sur la passe pour Bellingham en première mi-temps, là où si Bellingham la marque, on dit qu'il fait un mauvais match et que c'est à cause de lui qu'on perd le match. Donc voilà, quoi, faut quand même nuancer les prestations, je pense.
Ouais, je vois. Donc tu dis clairement à Kako et Clem, vous pensez, moi je pense pas.
C'est
Ça va
ça.
très bien. Ouais, moi aussi, je suis en fait, c'est parce que entre guillemets, Tedesco a vite installé Castells, enfin en disant à la presse que c'était le numéro 1. Mais le problème, c'est que le terrain a peut-être montré autre chose, juste dans la fiabilité physique d'un des deux par rapport à l'autre. Et en plus aussi, il y a une petite stat, c'est que Castells, en fait, a déjà raté, je pense, deux compétitions internationales pour blessure. Donc c'est que voilà, c'est qu'il a une sorte de poisse au-dessus de sa tête. Toi, Clément, t'as quelque chose à rajouter?
Mais le problème de Castells, c'est que en plus quand il a joué, moi il m'a pas plus rassuré que ça, alors que les prestations de Sels m'ont rassuré, tu vois. Donc c'est vrai que ça va être difficile, ça va être un choix très difficile pour Tedesco. Peut-être de nouveaux dramas en vue, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, si on se fie au terrain, pour moi Mats Sels doit être titulaire, mais nous verrons dans 3 mois.
Nous verrons, comme tu dis, de toute façon, c'est lui qui est payé 1 million par an, c'est à lui de faire les choix. Donc maintenant, on a terminé sur les A, on va faire un petit débrief très très léger, enfin un débrief, on va plutôt en parler sans réellement entrer dans le débat parce qu'il y a des gens ici, dont moi, qui n'ont pas vu ces matchs. Un retour sur les jeunes, donc c'est les U21, U19 et U17, donc avec pas mal de matchs. Si je me trompe pas, il y a eu 8 matchs en tout, c'est ça? 3 matchs pour les U17, 3 matchs pour les U19 et 2 pour les U21. Donc en termes de résultats, on va suivre avec l'expert. Donc les U21 ont joué 2 matchs, donc victoire à domicile face à Malte, 3 buts à 1, et un déplacement en Espagne dans le choc du groupe avec une défaite 1 but à 0 en toute fin de match. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jules, sur les U21?
Alors je vais essayer de faire court parce que le temps avance vite. Mais pour Malte, ben, Je trouve que la Belgique était assez bien en place. On a dominé, on était patient, pas de problème. Juste Zeno van den Bosch qui relance tout seul le match avec un tacle assassin là, sur l'attaquant. Penalty. Et pour moi, il aurait pu prendre carton rouge. Il ne la prend pas, heureusement. Puis Oleg B qui fait un solo qui finit le match. Mais voilà, globalement positif. Puis contre l'Espagne, on est largement. On est dominé. On résiste bien. On n'est pas non plus acculé. Mais bon, c'est le jeu de l'Espagne, on le connaît. Donc, difficile de dominer l'Espagne. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas du tout existé offensivement, on n'a pas cadré un seul tir du match. Martin Van de Voort nous sauve avec quelques beaux arrêts, l'arbitre aussi avec un but annulé, j'ai toujours pas compris pourquoi. Et puis voilà, on prend un but en fin de match, mais je l'ai pas vu parce que le match Belgique-Angleterre va déjà commencer, donc j'avais décidé de switch. Donc voilà, ça c'est pour les... Ah oui, aussi Arne Engels, bientôt prêt pour l'équipe A, moi je pense oui, et c'est tout.
Ah bah, et ouais, donc les U21 sont donc troisième dans leur groupe, à égalité avec l'Écosse, mais avec un match de plus. Donc pour l'Euro U21, donc il y a 9 groupes, c'est les 9 premiers qui passent et les 3 meilleurs deuxièmes. Et après, donc, il y a des barrages entre les 6 autres deuxièmes, et donc là, il y a 3 autres deuxièmes donc, qui passent. Il y a un qualifié d'office qui est le pays organisateur. Donc pour les U17 et les U19, donc il y a eu le tour élite, donc c'est le dernier tour de qualif pour l'Euro. Donc là, les deux équipes sont tombées donc dans le groupe de la mort, évidemment. Les U17, parle-nous un peu, Jules.
Donc les U17, on tourne dans un groupe très très compliqué avec l'Italie de Camarda, de l'AC Milan, une Finlande assez piégeuse et puis les Pays-Bas. Donc on gagne tout d'abord le premier match face à la Finlande, 1-0 sur un penalty. Puis on est battu par l'Italie alors qu'on mène 2-0, on perd 5-3 au final. 3 pénaltys pour l'Italie donc, et un contre 50 de Samuel Nibombe, donc assez dommage sur ce match-là. Les Pays-Bas, on surdomine, on tombe sur un excellent gardien des Pays-Bas, on finit le match 2-2. Donc on est éliminé parce qu'on termine deuxième de groupe et que c'était les 7 meilleurs deuxièmes qui passaient, on finit pire deuxième. Donc on est éliminé, c'est dommage quand on voit le talent que cette génération 2007. Mais voilà, on était dans un groupe difficile, on le savait, ça reste dommage.
Et tu peux nous citer quelques talents de cette équipe 17, pour les gens qui ne connaissent pas?
Konstantinos Karetsas, Jorti Mokyo, qui est surclassé, donc qui sera encore en U17 l'année prochaine potentiellement. Zaid Bavdili, qui est le U17 du rassemblement, franchement, partout, au milieu de terrain. On a aussi Wilson Da Costa de Genk, un Elia Sévir voltant, enfin. Il y a des bons joueurs, franchement.
Ça va, et en ce qui concerne les U19, donc eux aussi éliminés, qu'est-ce qui s'est passé pour les U19?
Alors les U19, il faut savoir déjà qu'il y avait énormément d'absents. Donc on les connaît, Vermeeren, Fofana et Spillers, qui sont surclassés en U21 et en équipe A. Mais aussi les Mika God, Stanis Udumbo, Mathieu Polo, etc. qui étaient blessés. Ça fait beaucoup d'absents. Et en plus, on tourne dans un groupe ultra compliqué. La France, de Matistel. Les Pays-Bas, avec tous leurs joueurs qui jouent à l'Ajax et au PSV, et puis la Lituanie qui est embêtante vu qu'elle a battu la France. Donc, groupe très très compliqué. Là aussi, on est battu par la France dès le premier match 2-0, puis on s'impose face à la Lituanie 2-0. Et à ce moment-là, on sait déjà qu'on est éliminé vu que la France fait un 6-6, et on arrive quand même à battre les Pays-Bas 3-2. Donc, on n'a pas pu voir les matchs puisqu'ils n'étaient pas diffusés, mais personnellement, je suis assez content des résultats, dans le sens où avec le nombre d'absents qu'on avait, aller battre les Pays-Bas et assurer face à la Lituanie, c'est assez positif. Il y a quand même une grande interrogation, c'est la composition face à la France, où il nous sort 4 latéraux et 3 défenseurs centraux de formation. Il a cru que Joachim Sey, c'était Stones, j'ai pas trop compris, je me suis un peu défoulé avec le compte du Urbèche d'ailleurs en commentaire, mais voilà. Sinon, c'est assez positif aussi, je pense, malgré l'élimination.
Ça va être, tu t'as dit il, mais tu peux nommer l'assassin donc, pour ce match, évidemment, même si ça reste une légende du football belge, l'entraîneur des U19 qui est
Wesley Song.
Le fameux Wesley Song, le grand attaquant. Donc voilà, on a fini pour ce thème. On va finir donc par les questions-réponses. Donc on a pris 2 questions qui nous ont été posées sur le compte Twitter de Let Me Talk. Donc Let Me Talk Off, n'oubliez pas. Donc la première question, donc c'est sur une des stars de ce rassemblement, sur Youri Tielemans. Donc Tielemans peut-il revenir à son niveau de Leicester avec le Diable? Si oui, peut-il prétendre à une place de titulaire à long terme? On en a un petit peu déjà parlé, même s'il a rajouté à long terme. C'est vrai que Kevin De Bruyne a un certain âge. Je ne suis pas sûr que il va vraiment continuer après l'Euro 2024 au vu de sa forme physique. Est-ce qu'à long terme, Yuri Tielemans peut prendre cette place de titulaire selon vous, Clément? T'en penses quoi?
Ben, c'est bien, je t'en prie, réponds à ma question à ma place. C'est super, bravo. Franchement, bravo le professionnalisme, Patrick. Ben, en gros, c'est ce que tu as dit, hein. Revenir à son niveau de Leicester, pour moi, il l'a déjà dépassé, hein. Pour moi, même à Leicester, ce Tielemans-là, il n'était pas aussi fort. Donc, peut-il prétendre à une place de titulaire à long terme? Ben, comme on l'a dit, jusqu'à l'Euro, non. Il y aura De Bruyne. Mais une fois que Kevin sera parti, évidemment, je vais dire que le chemin est tout tracé. Hein. Donc, pour répondre simplement, Tielemans peut-il revenir à son niveau de Leicester? Oui, pour moi, il est déjà même meilleur. Peut-il prétendre une place de titulaire à long terme? Oui, aussi, une fois que Kevin sera plus là.
Et toi, Jules, t'en penses quoi? Est-ce que vraiment il peut prendre une place si Santino Scaresta part avec le numéro 10 pour la Coupe du Monde 2026?
J'ai un petit bug, Wifi, je t'avoue. J'ai pas entendu ta question. J'ai juste entendu Jules et après j'ai entendu
Ah,
Constantinos, machin,
donc
mais
j'ai
je sais
dit,
pas si ça
ouais.
recommençait.
Est-ce que Youri Tielemans peut vraiment prétendre à une place à long terme comme titulaire alors que Konstantinos Kerestas aura le numéro 10 et sera titulaire à la Coupe du Monde 2026?
2026, je pense que tu vas un peu trop tôt. Faut pas brûler les étapes, mais 2028, il arrive fort quand même, hein.
Ça va. Et toi, Kako, pour toi, Tielemans titulaire à long terme, c'est possible?
Moi, je monte dans ton train, Carestas 2026.
Ils comprendront. Enfin, même si on sait que Jules est le plus grand fan de Carastas, au moins dans sa ville, hein. Pas plus, mais ouais, vous verrez. On vous aura prévenu. Donc, on va passer donc à la deuxième question d'un certain IM Carter 99, que je ne connais pas du tout. Le trio offensif idéal pour l'Euro, selon vous, plutôt Doku, Romelu Lukaku, Luke Bakio ou Doku, Romelu Lukaku, Trossard? Donc, Clément a déjà répondu, donc je vais poser aux autres. Je vais commencer par toi, Jules. Pour toi, c'est quoi ton trio offensif idéal?
Franchement, avant les matchs, j'aurais plutôt dit Trossard à gauche, Lukaku en 9 et Doku à droite. Mais après avoir vu les matchs, je dirais Doku il m'a quand même beaucoup plus plu à gauche, donc ça me freine. Trossard m'a pas trop plu. Et le Kebakio monte bien les deux fois, même si contre l'Angleterre, je pense qu'il peut il peut tuer le match. Mais donc là maintenant, je partirais sur Doku, Lukaku, Lukebakio.
Et toi, Kako, c'est quoi ton trio idéal?
Moi, ce serait Doku, Openda, Lukebakio. Non, je rigole, je rigole. C'est Doku, Lukaku et Lukebakio. Voilà. Bah,
Mais
non, on va avoir une équipe qui va beaucoup jouer sur les contre-attaques et qui aura besoin d'ailiers percutants. Je vois plus dans ce rôle-là Doku et Lukebakio pour pouvoir servir Romelu. Voilà.
Justement, j'ai une question parce que bah, justement, Luke Bakio fait plutôt, je trouve, de bonnes rentrées en ayant un Bakayoko peu performant en équipe nationale. Est-ce que justement, ces bonnes rentrées de Luke Bakio ne peuvent pas jouer contre lui dans le sens où il pourrait devenir, bah, comme certains joueurs ont été, ce joueur qui apporte un impact en sortie de banc?
Alors, moi je peux bien répondre à ça s'il faut.
Ouais, je t'écoute, Clément.
Alors, Luke Bakio, il a montré qu'il était aussi percutant quand il était titulaire. Hein. Il l'a montré contre la Suède, il l'a montré contre l'Allemagne. Non, pas contre l'Allemagne, pardon, contre l'Autriche. Quand on est allé là-bas, c'est lui qui ouvre le score en faisant une percée de malade. Donc, que ce soit en tant que titulaire ou en sortie de banc, il a toujours été convaincant, je trouve. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour lui.
Et toi, Jules?
Moi, je veux contre-attaquer ta question avec le fait que Trossard, à Arsenal, c'est aussi un super bon super sub. Donc,
C'est vrai, c'est pas faux. Bah, évidemment, hein, je ne voulais pas dire que le Kebakio était mauvais en début de match. Au contraire, pour l'avoir vu du stade aussi face à l'Autriche à la maison, dans le match nul, il avait été aussi vraiment exceptionnel. Mais en fait, il est bon partout, en sortie de banc et sur le terrain, mais il y a d'autres joueurs qui en sortie de banc. Bizarrement, Trossard, c'est vrai que je le trouve très bon avec Arsenal en sortie de banc, mais je trouve justement qu'il n'a pas le profil, entre guillemets, pour faire changer un match dans le sens, ben, c'est pas un joueur explosif, c'est pas un joueur qui va éliminer, c'est pas un joueur très rapide. Donc je me dis, c'est vrai qu'avec Arsenal, il y arrive, mais c'est un Arsenal souvent qui va être dominant, qui va voilà, être dans le camp de l'adversaire. Est-ce que la Belgique peut donner ce genre de possibilité à Trossard? Moi, je ne sais pas, je pose la question. Clément?
Pour moi, tu peux le faire. Hein. Il l'a déjà montré contre Liverpool récemment. C'est vrai que c'est pas un dribbleur fou, Trossard, mais il a cette capacité à éliminer, il a cette capacité à dynamiter. Ça fait partie des joueurs, Trossard, où sur une action, parfois, il peut peut-être aller chercher un match, tu vois. Et je te dis, contre Liverpool, il l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc, pour moi, on peut très bien lui donner ce rôle de super sub en Belgique, sans problème.
Ouais, en tout cas, de toute façon, même sur, ouais, il a montré sur le terrain en tant que titulaire que malheureusement c'était pas trop ça et que peut-être ce serait compliqué de partir avec lui dans un 11 titulaire. Donc ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce deuxième épisode. Hein, on a 1h10 d'enregistrement, je pense que c'est bon.
Mais je pense qu'on a oublié un nom. Quand on a parlé des ailiers, on a oublié un absent de cette semaine, enfin de cette trêve, c'est Carrasco. Parce que
Non,
si
mais...
maintenant on rajoute Carrasco dans l'équation, ça rebalance les cartes. Parce que pour moi, personnellement, je ne vois pas Trossard comme étant un titulaire sur les ailes. Mais si Carrasco est de retour, il pourrait prendre une place à gauche et on pourrait voir, je sais pas, par exemple, Doku à droite.
L'oubli était fait exprès, je comptais pas en parler, je voulais pas en
Personnellement,
parler.
c'est pas mon choix, mais on voit que le sélectionneur l'appelle régulièrement et le fait jouer. Du coup, voilà, il faut le prendre en compte.
Moi, j'ai pas envie. Non, non, mais évidemment, c'est vrai que c'est un joueur qui apparemment pour Tedesco compte. C'est peut-être lui le. C'est vrai qu'au final, je sais pas vraiment quelle est la hiérarchie de ses idées. Je pense que Doku, c'est acté que lui sera titulaire, mais c'est vrai qu'entre bon, Luke Bakio pour moi et Carrasco sont peut-être les deux joueurs qui vont plus se battre devant Trossard et qui est lui-même devant Bakayoko. Et là, prend tout son sens ce que Jules nous a dit que Bakayoko ne sera pas à l'Euro. Donc sur ce, quelque chose à rajouter?
Absolument pas.
Pareil, Kako, Jules, c'est bon pour vous?
Moi, c'est bon pour moi.
Est-ce que c'est bon pour vous?
Jamais.
Plus jamais. Ouais. Voilà. Franchement, donc n'hésitez pas. On va mettre. Je pense aussi donc sur Spotify, on peut mettre aussi des questions-réponses ou des sondages. Donc j'en mettrai un. Je sais pas encore quoi, mais j'en mettrai un. Donc ben, sur ce, on va vous laisser. Donc, merci à vous pour l'émission, les gars. C'était super.
Mais avec
Merci.
plaisir. C'est toujours un plaisir d'être là. Je sais bien.
C'était la première fois, mais c'est pas grave, tu peux dire toujours.
Non, mais d'être là, je veux dire de faire des trucs sur le foot
Mais...
avec vous. C'est...
Ouais, non, c'est un plaisir. Et donc, pas émission semaine prochaine qui devrait sortir mardi. On a un beau week-end de foot avec le retour des playoffs. Un petit City Arsenal. Il doit avoir d'autres gros matchs en plus. Peut-être il y a le Classico en France. Mais en tout cas, ce sera des belles émissions encore. Sur ce, ciao.
Ciao.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.